Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
RMC, l'After CAN.
Aurélien Tiercin.
Bonsoir à tous, septième jour de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de l'hospitalité, c'est ici à Abidjan, l'After CAN en direct comme tous les soirs, avec vous tous les supporters des équipes africaines, les fans de foot, l'After Première Radio de France le soir, et le premier podcast de France est en Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de cette CAN. Avec nous ce soir, Michael Siani, ancien international français venu observer cette CAN. Salut Michael.
Salut Aurélien.
Avec nous également un artiste que tu produis, amoureux de la République démocratique du Congo.
Exactement.
Oison Mobutu.
Yeah. Va bien. Ça va très bien, très bien.
Ça va, magnifique. On écoutera des sons.
Hein, super.
Si tu fais. Ce soir dans l'After CAN. Également avec nous Hamza Ramani, journaliste RMC, grand connaisseur du foot africain évidemment. Hamza, salut.
Salut Aurélien, bonsoir à toutes et à tous.
Et puis des invités qui sont passés nous voir comme tous les soirs, Jaja et Victor. Salut les gars.
Enchanté. Bonsoir.
Salut. Bon, ravi de vous recevoir. Français installé à Abidjan depuis un moment, hein, 10 ans, 3 ans. Supporter de la Côte d'Ivoire par procuration.
Bah, bien sûr. Ça.
De la France
obligatoire.
Aussi, j'imagine. Bon, un peu déçu pour le moment. L'événement ce soir dans l'After, c'est la nouvelle démonstration du Sénégal, toujours plus favori, avec ce deuxième succès dans la compétition contre le Cameroun. 3-1. Les Lions de la Teranga qualifiés en 8e. Par contre, les Lions indomptables, c'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, les Camerounais fâchés après cette défaite. Le Cap-Vert est également qualifié en 8e de finale. Ce sera la 3e fois que le petit pays d'Afrique de l'Ouest passe la phase de poule. Et puis on va analyser tout ça avec vous au 32-16. Les évaluations, le standard de RMC est évidemment ouvert à tout le monde. Et puis à la fin de l'émission, on va parler de l'Algérie qui est déjà sous pression avant son deuxième match de poule demain contre le Burkina Faso.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan.
Alors, cette victoire du Sénégal 3-1 contre le Cameroun, finalement l'un des favoris de cette compétition l'a emporté, qualifié pour les huitièmes de finale. Mais on va commencer par parler du Cameroun. Grosse déception évidemment pour les Lions indomptables, 3e de la dernière CAN, 5 fois vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on va prendre Derek tout de suite du compte Twitter X désormais La Tanière. Derek, je crois que tu es à Montréal en plus. Tout va bien, salut.
Ouais, tout va bien, on va dire ça, c'est comme un lendemain de gueule de bois, on va dire ça, tout va bien, comment ça va?
Ouais, bon voilà, tout va bien, mais t'as un peu résumé j'imagine l'état d'esprit des Camerounais aujourd'hui. Ça faisait 34 ans que le Sénégal n'avait pas battu le Cameroun, et là ça fait déjà mal à la tête. Comment t'as vécu ce match?
Bon, moi j'ai vécu ce match, en réalité il n'y a pas vraiment de surprise, hein. On ne peut pas gagner un match en jouant 10 minutes sur 90 minutes. Même les matchs de préparation, les matchs amicaux, on n'a pas beaucoup gagné. On est quand même sur un bilan de Rigobert Song de 21 matchs pour 4 victoires. Donc en réalité, on savait qu'on partait pas favori. Mais étant le Cameroun, on disait toujours que peut-être que les joueurs vont se mettre en mode compétition et qu'ils pourront aller chercher le nul et peut-être même aller sur un malentendu prendre cette victoire. Mais en réalité, vu le contenu du match, la victoire pour le Sénégal est méritée.
Ouais, Michael, un mot aussi sur ce match. Est-ce que déjà pour toi le Cameroun, est-ce que le Cameroun t'a fait bonne impression ou finalement le score est tout à fait logique?
Non, le score est logique. Derek, tu dis que finalement il aurait pu se passer peut-être une surprise, mais le Sénégal n'a pas laissé justement place à la surprise. C'est une équipe qui a maîtrisé la Gambie et qui a encore confirmé. Aujourd'hui face au Cameroun, une équipe solide, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de d'accomplissement dans cette équipe. Ils s'entendent, on a l'impression qu'ils s'entendent vraiment mieux. Le Cameroun, ça manquait beaucoup de justesse. Alors il y a eu de bonnes intentions, il y a eu de bonnes phases de jeu, mais dans la finition ça pêchait un peu.
Ouais, ils ont failli revenir au score en deuxième période. D'ailleurs, ils étaient menés 2-0.
Ils ont eu des actions pour revenir au score.
Ah, il y a cette de Nkoudou.
Ouais, ça leur permettait aussi de justement se battre sur les 10-15 dernières minutes, et finalement le troisième but qui les a éteints.
Ouais, Derek, juste ton avis sur cette fin de match. Si le nul, là t'as des regrets sur cette fin de match quand même, avec cette tête de Nkoudou qui passe à 3 cm des cages du gardien sénégalais, ou tu te dis bon, c'est mérité finalement, et l'écart de deux buts il est logique?
Non, bien sûr, en tant que supporter camerounais, bien sûr qu'on a des regrets, parce qu'on ne veut pas voir son équipe perdre. Mais encore une fois, c'est ça, je suis un peu entre deux eaux, c'est-à-dire que d'un côté, je me dis, oui, je voulais que Nkoudou mette cette tête pour qu'on reparte avec le nul, mais d'un autre côté, le 3-1, peut-être ça va aider certains supporters camerounais à ouvrir les yeux sur le fait que, comme le disait Michael, il y a eu aucune préparation. C'est-à-dire en fait qu'on est là, il y a pas de lien, il y a pas d'animation offensive, il y a rien qui est logique. Donc non, je vais pas jusqu'à dire que je suis content, mais ça montre notre vrai niveau, ça montre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et bon, maintenant on va aller chercher la victoire face à la Gambie, mais je pense qu'aujourd'hui beaucoup de Camerounais peut-être ont ouvert les yeux. Ouais.
Ouais. Hamza, toi qui es en studio à Paris, qui a vu ce match, toi tu penses que le Cameroun peut se relever de tout ça ou c'est la défaite de trop?
Je sais pas si on en attendait pas trop avec cette sélection de par sa stature, de par son histoire. Le Cameroun fait partie de ces sélections qui ont l'ADN Coupe d'Afrique des Nations, donc on a l'impression qu'ils sont capables, et l'ont déjà prouvé, ils sont capables de se relever n'importe quand, à n'importe quelle situation, pour justement réaliser de solides performances. Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour cette génération, c'est peut-être tout simplement un Cameroun qui traverse un creux générationnel de talent. On est peut-être loin du Cameroun des années 2000, des années 90, des années 80. Ce Cameroun qui, ces Cameroun au pluriel, qui nous ont fait rêver, soit sur la scène continentale, soit sur la scène mondiale. Et effectivement, aujourd'hui, quand tu regardes sur le papier la formation camerounaise, bon bah, je vous demande de faire un comparatif avec celle du début des années 2000. C'est ce que disait un petit peu en substance Rigobert Song en conférence de presse d'après match. Il faut accompagner ces jeunes. C'est un processus de reconstruction, mais peut-être qu'il n'y a tout simplement pas le talent suffisant pour vivre sur l'histoire, sur l'héritage qu'ont laissé les différentes générations.
Bah, c'est pas manquer de respect à cette équipe-là. Magnifique passe décisive. On va l'écouter, Rigobert Song, justement après la défaite du Cameroun contre le Sénégal.
Les statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe pour le futur, accorder encore quelques temps. Peut-être que je partirai. Mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité.
Derrick, je reviens vers toi, je me retourne vers toi. Est-ce que cette excuse du trou générationnel, tu l'entends et voilà, tu te dis c'est juste un mauvais moment à passer?
Non, bien sûr qu'il y a un trou générationnel, mais on n'est pas obligé d'avoir une génération en or pour avoir un minimum de stratégie, avoir un minimum de cohérence sur le terrain. Je veux dire, quand on voit l'équipe du Cap-Vert ou même la Guinée équatoriale, je suis désolé, ces équipes jouent beaucoup mieux que le Cameroun. Donc non, je pense pas que ce soit une réelle excuse. On n'est juste pas préparé et c'est tout. Moi, on n'est pas obligé d'avoir une superbe génération comme celle d'Eto'o ou peut-être même celle de Roger Milla dans les années 80 pour proposer du jeu. Là, on ne propose même pas du jeu. Et je suis désolé, quand on regarde quand même les joueurs qui composent cette équipe du Cameroun, certes, encore une fois, c'est pas la génération dorée, mais on a quand même de la qualité. Et moi, je suis désolé, quand je vois ce Sénégal jouer contre le Cameroun, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de... Je sais pas... Sans manquer de respect au football amateur, mais j'avais l'impression parfois sur certaines phases de jeu de voir une Ligue 1 face à une régionale. Non, c'est pas pour moi. Je mange pas cette excuse. Vraiment.
Aurélien, pour conclure sur cet aspect de creux générationnel, on va quand même rappeler que le Cameroun de 2017, qui est champion d'Afrique, est un Cameroun qui une semaine avant l'événement ne savait pas avec quel groupe de joueurs il allait se présenter au Gabon pour le tournoi. Mais la différence entre à l'époque et aujourd'hui, et c'est vrai que sur ce point, Derrick a raison, il n'y a pas besoin d'avoir une génération dorée, mais tu ne peux pas te permettre d'avoir une génération moins bonne, on va utiliser ce terme, et en plus un sélectionneur qui n'a peut-être pas les leviers tactiques, les leviers techniques, les leviers de discipline, les leviers... Je ne sais pas quel levier aujourd'hui utilise Rigobert Song, mais à l'époque, il y avait Hugo Broos qui s'est montré, qui s'est révélé aussi sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir... Et une équipe qui a peut-être moins de talent qu'il y a plusieurs décennies maintenant, et avoir sur le banc un sélectionneur qui a des choix parfois étonnants, une fédération qui va concilier l'histoire, par exemple, autour d'André Onana. Tu peux au moins essayer de mettre toutes les cartes de ton côté pour espérer performer. tu peux ne pas avoir la génération, mais donne-toi au moins les moyens d'espérer. Et c'est vrai que ce Cameroun-là ne se donne pas les moyens de rêver et d'espérer.
Ah, il nous a fait, ça a été compliqué cette équipe du Cameroun pour le moment sur ces deux premiers matchs. Je me tourne vers vous les gars, supporters. Alors ivoirien, du coup vous êtes là depuis un moment, donc ouais. Le cœur est un petit peu ivoirien, mais vous suivez le football africain, j'imagine.
Bien sûr.
Voir le Cameroun dans cette situation, ça vous inspire quoi?
Ben c'est vrai que ça fait un peu mal de voir le Cameroun quand même performer de cette façon. Après, je pense que l'auditeur disait qu'il y avait un trou générationnel. Je pense que on est dedans. Hein. C'est comme certaines sélections, il y a le passé en fait qui joue pour eux. Mais ce soir, face au Sénégal, il n'y avait pas photo, quoi. Enfin, le Sénégal était quand même bien au-dessus. On voit un collectif qui est quand même mieux huilé du côté du Sénégal, avec un projet, je pense, qui date depuis quelques années maintenant. Donc le Cameroun, ouais, peut-être sûrement en phase de reconstruction. Il y a Choupo-Moting avant qui était là dans la sélection, qui n'a pas été sélectionné. Voilà, il n'y a peut-être plus de grands noms dans cette sélection. Donc bon, à voir. Mais bon, nous, après, les Ivoiriens, on a toujours une petite bataille.
C'est la belle famille,
cette petite rivalité.
Voilà, la petite rivalité. Ouais. Mais bon, ça, on ne va pas dire que ça nous a fait plaisir ce soir, la défaite du Cameroun, mais ouais. Un petit peu quand même.
C'est vrai.
Pardon.
Ouais, tout à fait. Ici, vraiment, on sait que la dernière CAN est au Cameroun. Ils ont perdu en demi-finale. Moi, je m'étais dit vraiment qu'ils allaient venir ici avec l'envie de tout péter parce que c'était en Côte d'Ivoire et qu'on connaît la rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a aucun Ivoirien qui veut se faire éliminer avant le Cameroun. C'est un peu la rivalité. Bon, pour l'instant, on ne sait pas.
Oui, pour l'instant, les deux sont dans la même galère.
Les deux sont dans la même panade, ouais, mais vraiment, je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça en phase de poule.
Ah, Derek, quand tu entends ça, ça te fait mal au cœur doublement, j'imagine. Là, même les Ivoiriens commencent à se tenir pour ne pas sortir trop tôt.
C'est pas une surprise, j'ai envie
de dire. C'est vraiment qu'on a touché le fond, là.
Ça va aller.
On va te dire, Yako. Hein.
Ouais, et Poison, du coup, toi qui a le cœur plutôt République démocratique du Congo,
oui.
Le Cameroun, pour toi, ça t'évoque quoi niveau football?
Bah, c'est un grand pays, hein, le Cameroun, Roger Mila, Eto'o, c'est un grand pays, mais là, c'est vrai que je suis comme Eric, et je suis vraiment touché quoi, pour eux. C'est
ouais.
Dommage.
Ouais. Les Camerounais, Michael. On parlait de Rigobert Song qui disait aussi s'il y en a un autre qui prend ma place, en gros, je lui souhaite bon courage. Est-ce que tu penses que le problème, c'est Rigobert Song?
Il anticipe un peu en disant ça. Après, le problème, est-ce qu'on peut appeler ça un problème? C'est certainement une façon de ne pas de se cacher un peu derrière justement ce problème générationnel, mais. Rigobert sait que cette défaite va lui coûter cher, surtout pour la suite, surtout pour ce qu'il a montré ces derniers temps avec le Cameroun. C'est vrai que le Cameroun a besoin aussi de renouveau, a besoin de d'un coach qui d'un manager qui va leur permettre déjà de trouver un fond de jeu, un projet de jeu beaucoup plus cohérent à l'image aussi de leur vraie qualité, parce que comme Derek le dit, il y a du bon joueur. Il n'y a pas de meilleur joueur qu'au Sénégal, mais les joueurs sénégalais, on l'a vu avec celui qui a marqué
Mané, Diallo,
voilà, des joueurs qui s'imposent aussi dans leur club, qui sont sur la constance, beaucoup plus réguliers. Et dans ce genre de compétition-là, il faut de la régularité. C'est bien d'être bon sur un match, mais il faut de la régularité. Et peut-être que le Cameroun a besoin de ce genre de coach qui peut leur permettre d'être réguliers, d'avoir un fond de jeu beaucoup plus stable.
Ouais. Ouais. On va enchaîner ensuite sur l'évaluation des joueurs camerounais. Onana, évidemment, le gardien qui était de retour dans la cage. Zambo Anguissa aussi décevant. Mais pour terminer sur l'avenir ou pas de Rigobert Song, Derek, est-ce que tu penses que tu as donné les stats tout à l'heure, donc j'imagine ta réponse. Mais Rigobert Song, qui reste un joueur très respecté pour sa carrière sous le maillot des Lions Indomptables, là en tant que sélectionneur, j'imagine que tu as envie de tourner la page.
Ah mais c'est ça, Michael est vraiment très gentil. Oui, on a tout un peu de il est très gentil quand il parle.
Il est vraiment très poli.
non, mais plus sérieusement, c'est vrai, oui, de la régularité, et je suis désolé, de la compétence. Je redis le bilan, 21 matchs, 4 victoires, et encore une autre petite stat sur Rigobert Song. C'est un entraîneur qui n'a jamais passé les poules, que ce soit avec les jeunes, les moins de 23 du Cameroun, que ce soit en Coupe du Monde, et maintenant, on a la CAN. Donc régularité et compétence aussi. Et malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour lui et tout l'amour que j'ai pour lui, il n'est pas au niveau.
Allez, petite pause dans cette After CAN. On parle Sénégal-Cameroun. On se retrouve dans quelques minutes. Il est minuit 16 ici à Abidjan.
RMC, l'After CAN.
Aurélien Thiersin.
L'After CAN, comme tous les soirs depuis Abidjan, il est 23h17 ici, minuit 17 à Paris. On continue de débriefer Sénégal-Cameroun. La victoire sans bavure des Sénégalais, 3-1 contre les Camerounais. Et on est plutôt sur cette pauvre équipe du Cameroun qui a deux doigts de se faire éliminer de la Coupe d'Afrique après seulement deux petits matchs. Un match nul contre la Guinée, une défaite contre le Sénégal. On a parlé de l'avenir de Rigobert Song, le sélectionneur qui pense déjà peut-être un petit peu à l'avenir, et cette équipe du Cameroun qui donc a perdu pour la première fois contre le Sénégal depuis 34 ans. Je reviens vers toi, Derek, juste sur cette petite statistique. Le Sénégal qui donc gagne pour la première fois depuis 1990 contre cette équipe camerounaise. J'imagine que ça doit faire mal à l'ego également, Derek. Si on peut allumer le micro de Derek, peut-être. Ouais, voilà, c'est bon, tu peux y aller, Derek.
Ok. L'ego, encore une fois, un match de foot, tu le gagnes, tu le perds, c'est vraiment dans la manière. C'est parce que déjà, il y a eu un match amical il y a de ça 2-3 mois, si je dis pas de bêtises. Ils nous avaient aussi énormément dominés. Ils avaient battu 1-0, c'était à Lens. Et là encore, voilà, là, c'est la CAN, match où tu dois aller chercher les 3 points, aller à la rigueur, le match nul. Et t'es dominé de la tête aux pieds. Donc c'est plus le contenu, plus que le résultat de perdre face à ce Sénégal qui est un beau Sénégal.
On va prendre un auditeur qui nous a appelé supporter du Cameroun, Célestin, qui est avec nous, qui nous a appelé. Salut Célestin.
Salut.
Bon, alors ça va, le salut, la voix est bonne. La voix est bonne. C'est que ça va un minimum, mais bon, comment tu l'as vécu ce match et cette défaite?
Oh, ben disons que je ne suis pas très déçu, moi. Je pense que le Cameroun s'est amélioré par rapport au premier match. Et je trouve que ceux qui ont joué aujourd'hui ont mouillé le maillot. N'oubliez pas que l'équipe du Sénégal a cette chance d'avoir beaucoup de bons joueurs, surtout les postes. Et ça leur permet d'avoir un jeu un peu plus fluide. Mais j'ai vu un Cameroun qui avait envie.
Et donc ça te suffit, ça, Célestin? T'es pas fâché contre Rigobert Song, contre un manque de talent? Tu vois des gars qui se battent et ça te suffit?
Non, je suis quelqu'un, j'ai vu remporter les 5 Coupes d'Afrique des Nations du Cameroun. C'est pas les affaires de Rigobert Song. Il faut que les gens, et d'abord les joueurs, aient la volonté et que ces joueurs puissent, sur le terrain, démontrer qu'ils peuvent faire, qu'ils sont capables. Moi, j'avais peur, parce que partout, l'équipe du Cameroun ne vaut pas la peine, il n'y a pas de nom, c'est pas ça. Le Cameroun n'a jamais eu de très si grands leaders. Ils ont même des générations qui sont passées. Il y a la génération de 2000 qui avait quand même plusieurs joueurs très compétitifs dans leur club. Mais avant ça, c'était les gars du terroir, les frères Bilic et autres. Mais ce qui caractérise l'équipe camerounaise, le continent, c'est surtout cette volonté de gagner. Et cette volonté de gagner nous a donné plusieurs victoires. Aujourd'hui.
Et là tu l'as vu, cette volonté de gagner, ou simplement cette volonté de se battre?
J'ai vu cette volonté de gagner, mais seulement le Sénégal était au-dessus de nous. Le Sénégal était vraiment au-dessus de nous. Je vous dis bien que presque à tous les postes, c'est blindé chez eux. Et moi, je me dis peut-être que on a vraiment aussi un peu loupé le coach. Mais je suis pas découragé avec la Guinée. On aurait dû battre la Guinée pour être beaucoup plus mieux positionné. Mais j'ai toujours espoir. Même avec 4 points, une équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations passe, même meilleure 3e. Et on peut monter en puissance avec ce qu'on a intégré aujourd'hui et ce qui avait été intégré la fois passée. Moi, je crois que ça peut faire une bonne alchimie et par la suite, on peut vraiment avancer. On a perdu des matchs de poule à l'époque, même en 86, même 88 au Maroc, et tout ça. Mais on a remporté.
Célestin, oui. T'as de l'espoir, Mickaël, je te vois avoir envie de réagir depuis tout à l'heure.
Non, mais je l'ai laissé parler en fait.
Vas-y, Mickaël.
Mais non, on peut pas se contenter, je pense, de l'envie de gagner. il faut produire du jeu, il faut pouvoir mettre à mal la défense adverse, il faut pouvoir les faire courir, les déjouer, déséquilibrer l'équipe adverse, il faut avoir un fond de jeu pour pouvoir... oui, mais c'était pas assez efficace. Alors effectivement, le peuple camerounais se repose derrière cette capacité à des fois aller chercher la victoire même dans la difficulté.
Est-ce qu'on s'appuie pas trop là-dessus d'ailleurs?
Parce voilà, que là, justement, on s'appuie là-dessus et derrière quand ils sont pas assez performants dans ce sens-là, eh ben la défaite arrive.
Ouais, Hamza,
vous savez ce qui caractérise le Cameroun à l'époque, c'était le fait d'attendre. D'attendre toujours, on n'a jamais produit le jeu. Mais après, par contre, nous dominions les adversaires et tout, parce que nous étions très physiques, dominants. Aujourd'hui, il faut produire le jeu, comme vous dites. Mais seulement, c'est pas de notre ADN. Aujourd'hui, j'ai vu des gars conquérants, volontaires, mais bon, pas au-dessus des autres. J'ai dit, le Sénégal avait vraiment une équipe où à tous les postes où on n'a pas trouvé la faille à un certain niveau, au niveau de la défense à un certain niveau. Même le milieu du terrain des Sénégalais était vraiment bien équilibré. Et moi, c'est pour ça qui a empêché le Cameroun de marquer des buts, de produire le jeu. Mais seulement.
Mais marquer des buts, effectivement, c'est... C'est ce qu'il va falloir faire pour les Camerounais. Hamza, je me tourne vers toi à nouveau. Est-ce que cette équipe, avec notamment Franck Magri qui joue à Toulouse, Georges Kevin Nkoudou qui joue en Arabie Saoudite aujourd'hui, des gars au milieu de terrain comme Cham ou Kemen qui joue en Turquie, alors ça fait pas tout, hein, évidemment, faut pas forcément jouer à Manchester City ou au Real pour...
Nous ont permis de remporter des Coupes d'Afrique devant des équipes pleines de professionnels. Nous, on se dit simplement qu'il faut qu'il y ait une certaine cohésion et une volonté. Et je vous dis, aujourd'hui, quand ils reverront ce match, ils reverront qu'ils avaient des possibilités. Parce que vraiment, on nous avait vraiment enterrés. Hein. On nous avait vraiment enterrés. On n'a pas touché le fond. Il y a un Camerounais là qui a dit tout à l'heure, oh, on avait touché le fond. Pourquoi il se décourage? Il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Il ne connaît pas l'histoire du football camerounais. Nous sommes des guerriers. Moi, je vous dis bien que si on traverse une certaine étape et on arrive à l'élimination directe, ce sera une autre phase qu'on va montrer, hein.
Merci beaucoup Célestin. Ce qui est positif, voilà, t'es positif avec cette équipe camerounaise, pas encore éliminée de cette CAN. Évidemment, il reste une dernière journée, un match contre la Gambie. Hamza, je vais me retourner vers toi. Est-ce qu'avec cette génération de joueurs, justement, alors est-ce que t'as vu des gars qui se battent d'abord, et est-ce que tu penses que tu peux voir des mecs marqués ensuite avec cette équipe?
Très rapidement, pour rebondir sur ce que disait Célestin, un homme un jour a dit, vous savez, c'est quand on est en danger qu'on n'est pas en danger. Mais quand on ne sait pas qu'on n'est pas en danger, c'est là qu'on est en danger, c'est de ça dont il s'agit. Cet homme, c'est Rigobert Song, juste après la défaite en barrage aller face à l'Algérie, en barrage aller de Coupe du Monde. Je peux te dire, Aurélien, que cette phrase, elle résonne encore aujourd'hui dans ma tête.
Tu t'en rappelles.
Ça, c'est la première chose. Et puis en plus, Rigobert, il le dit avec un phrasé. Il y a quelque chose quand même.
Attends, il n'y avait pas un but de Toko Ekambi à la fin, non? C'est ça?
Exactement, c'est ça.
Ah oui,
c'est
voilà.
Ça. Merci de le rappeler. Moi, j'ai plusieurs choses. Encore une fois, je suis pas sûr vraiment qu'il s'agit d'un manque de volonté des joueurs. Je pense vraiment, tout simplement, qu'il s'agit d'un manque de talent. Je vais, excusez-moi d'être cru, mais cette sélection camerounaise, aujourd'hui, n'a pas le talent nécessaire pour se battre à la régulière sur 90 minutes avec le Sénégal, même si on n'est pas passé loin d'un 2 partout. Finalement, ça termine à 3-1, mais la tête de Georges Kevin Koudou, ça peut rapidement passer à 2 partout. Et finalement, les seuls joueurs cadres, tauliers, entre guillemets, ceux qui jouent de grands matchs, de grands rendez-vous en Europe, il y en a notamment un qui s'appelle André Onana. Manifestement, il ne prend pas sa sélection au sérieux, ou en tout cas, lui décide, avec l'accord de sa fédération, d'arriver à la dernière minute sur une Coupe d'Afrique des Nations sans préparation. Du coup, il ne joue pas le premier match. Et sur ce deuxième match, malheureusement pour lui, il ne s'est pas montré décisif.
Donc, on va en parler. On va en parler du niveau d'Onana, mais je te laisse continuer, Hamza.
Donc, pour conclure très rapidement, Aurélien, moi, Tout est possible. Tout est possible avec ce Cameroun. Effectivement, quand tu vois sur le papier, de toute façon, le dernier match sera décisif parce qu'en plus, c'est une confrontation face à la Gambie qui est dans l'obligation de gagner pour espérer terminer dans les meilleurs troisièmes. Donc, on pourrait avoir un match assez ouvert, un match assez prolifique. Mais il va falloir être tueur, être efficace dans les deux surfaces de réparation pour ce Cameroun-là. Mais encore une fois, je le disais avant la Coupe d'Afrique, ce Cameroun-là peut très bien sauter au premier tour sans que ce soit surprenant parce qu'effectivement, en termes de qualité, il y a quand même des manques. Mais elle est aussi capable, sur un match, de renverser la vapeur et de peut-être aller construire enfin ce groupe, peut-être pour t'emmener vers une histoire sympa.
Mais on va faire l'évaluation des joueurs camerounais dans quelques minutes. Onana, Zambo Anguissa, Magri, Castelletto. On va parler du Sénégal aussi, mais avant ça, on va prendre François, autre auditeur, supporter du Cameroun, qui a appelé RMC, qui a appelé au 32-16. Salut François.
Salut.
Et bien encore une voix en jouer. Encore une voix pas si déprimée que ça. Comment t'as vécu cette défaite contre le Sénégal et donc simplement ce petit point après deux journées? Là, ça va être chaud pour tes Lions indomptables.
Non, mais en fait, aujourd'hui, il est temps que le Cameroun se réveille et que le Cameroun aborde vraiment les problèmes de fond. Le véritable problème du Cameroun aujourd'hui, c'est un problème de la formation. Le Sénégal aujourd'hui qui arrive sur le terrain, c'est 30 ans de boulot. 30 ans de boulot avec 5 centre de formation et qui produit des meilleurs joueurs en Afrique et au monde aujourd'hui. Le Cameroun, c'est ce que nous n'avons pas. Le Cameroun se lève le matin et va piocher des binationaux à gauche à droite et on les amène, ils repartent, ils reviennent. Aucune cohésion et il est là le véritable problème. Vous prenez André Onana, il va jouer avec des jeunes qu'il n'a jamais vus, qu'il n'a jamais côtoyés. C'est pas ça le football. Et Toffi, c'est un très grand joueur qui a vraiment joué dans de très très grands clubs. Je pense que le véritable problème aujourd'hui n'est plus de se poser la question de savoir si Rigaud est à son poste ou pas, mais Rigaud fait avec ce qu'il a. Aujourd'hui, quel joueur camerounais, à part 2-3 joueurs qui ont évolué ce soir, ont un niveau de Ligue 2 en France? Ils ne sont pas plus de 3. Toko Ekambi n'a plus sa place dans l'équipe. Ça, c'est clair. Ils sont tous gamaleux. Ça n'a pas le niveau aujourd'hui de pouvoir jouer un match face au Sénégal au niveau de la CAN. Ils sont tous en train de payer le manque de niveau et le manque de préparation. On a vu aucun footballeur depuis la Coupe du Monde parti d'un championnat de jeunes au Cameroun, franchir des paliers, évoluer, ce qui est le cas aujourd'hui des footballeurs sénégalais. On compte sur un binational né en France, espérer qu'il apporte, qu'il devienne un étoffiste. On ne bâtit pas une équipe de cette manière. Et puis d'autre
part. François, on va écouter Eladji Diouf, légende du football sénégalais, qui pense un petit peu comme toi sur ce déclassement du Cameroun. Alors il le dit avec des mots moins sympathiques. Eladji Diouf, c'était avant le match, hein, c'était un petit peu prémonitoire. On écoute Eladji Diouf.
Il y a des choses qui me dérangent avec l'équipe du Cameroun. C'est d'avoir un gardien de haut niveau aujourd'hui. Il y a la Coupe d'Afrique et on sait la Coupe d'Afrique, comment elle est importante pour les Camerounais et pour les Africains. Et de voir son gardien qui vient à deux jours avant un match. Aujourd'hui, ça, c'est inacceptable au Sénégal. Aujourd'hui, le Cameroun a régressé. Aujourd'hui, j'ai mal pour les supporters camerounais, j'ai mal pour les Camerounais parce que ils dorment sur leur histoire. Ils parlent du continent. Mais le continent, aujourd'hui, il faut qu'ils savent que le continent est devenu l'hôtel continental. Quand on parle de football aujourd'hui, on parle des équipes sérieuses. Le Maroc, ils ont travaillé, ils sont là où ils sont. L'Algérie, même la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
L'hôtel continental, ça te va, ça? C'est aussi ce que tu penses?
Oh, il exagère un peu, hein, il exagère.
Ouais, bah, mais Mickaël, je me tourne vers toi. On parlait du continent, c'est l'hôtel continental. Bon, c'est déjà pas mal un hôtel continental, mais bon, effectivement, ça fait mal de voir cette équipe comme ça.
Ouais, complètement. Et je pense qu'il est lucide, il est réaliste. Bon, en tant que Sénégalais, je pense qu'il risque pas trop en disant ça, mais il le dit. Mais en vrai, il ouvre les yeux il met le doigt sur un vrai problème. C'est vrai que. Négliger des comportements qui pourraient être préjudiciables pour l'équipe du Cameroun, c'est aussi montrer au monde qu'il y a pas, il y a très peu d'importance. Et finalement, on le ressent sur le terrain.
On va faire une petite pause sur RMC dans cette After CAN Sénégal Cameroun, le débrief. On va parler aussi de l'Algérie, de la qualification du Cap Vert. On se retrouve dans quelques secondes.
RMC, l'After CAN.
Aurélien Thiersin.
Minuit 32 sur RMC, l'After CAN continue. C'est le 7e jour de compétition ici à Abidjan. Il est 23h32 ici. D'ailleurs, on est avec Mickaël Siani, ancien international français, Poison Mobutu, chanteur, artiste, Jaja et Victor, auditeur fidèle de l'After qui vivent ici à Abidjan. On est avec Hamza Ramani, également à Paris, et Derek, supporter camerounais derrière le compte La Tanière sur X, anciennement Twitter. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas demandé, mais oui, auditeur fidèle de l'After depuis de nombreuses années, j'imagine depuis la France, et ensuite vous avez continué à Abidjan, c'est ça?
Alors, depuis la France, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'habitais déjà une région où il n'y avait pas trop le RMC sur les ondes radio. Donc, j'ai beaucoup plus appris à connaître l'After avec le podcast ici en Côte d'Ivoire. Et ça remplissait mes heures, on va dire, de bouchons ivoiriens. D'ailleurs, j'étais assez, pas mécontent, mais un peu déçu quand l'After a augmenté.
Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Pardon, excusez-moi. Quand ça a augmenté en termes de durée. Parce que du coup, avant, j'avais le temps de faire toute l'émission dans les bouchons ivoiriens. Et maintenant que l'émission est un peu plus longue, j'arrive pas à la finir.
Bon, et puis c'est un lien avec la France, j'imagine. Tu peux suivre l'actualité tous les jours.
Entendre parler de football, comme dit Jaja, dans les bouchons ici, qui sont très présents, ça nous fait passer le temps. On vous écoute et on passe un bon moment en votre compagnie. C'est plutôt agréable. C'est
ça. Bon, alors on va passer du Cameroun au Sénégal. Là, il y a plus de bonnes nouvelles. Hamza, je vais me tourner vers toi en premier. Les Sénégalais, c'était déjà les favoris, un des gros favoris de cette compétition. Encore plus après la victoire 3-0 contre la Gambie. Bon, bah puis maintenant, on a l'impression que c'est une autoroute. Au moins le champion en titre va assurer jusqu'au bout, va se battre jusqu'au bout. Ça sera quasi impossible de les battre.
Oui, alors déjà dès demain, on aura la possibilité de savoir. Non, même pas dès demain, pardon. Il y aura la prochaine journée, la confrontation directe pour valider la première place, ce qui peut ouvrir ou pas le tableau finalement, puisqu'il y a tellement de surprises et tellement d'incertitudes sur toutes ces poules de Coupe d'Afrique des Nations qu'on ne sait absolument pas à quoi va ressembler le tableau, et du coup impossible de prédire si terminer premier pour le Sénégal serait un avantage. Mais effectivement, je pense que c'est une équipe qui avait déjà énormément de certitudes au moment d'arriver à Abidjan et qui montre quand même une force collective plutôt intéressante, d'autant plus que la poule n'est pas si évidente. Encore une fois, un premier match maîtrisé face à la Gambie, c'est un match particulier, c'est un derby, hein. On rappelle que la Gambie est enclavée au Sénégal. Derrière, il y a ce match qui reste quand même une grosse affiche du football africain face au Cameroun. La dernière journée face à la Guinée, qui est quand même une belle surprise de cette phase de poule. Donc finalement, le Sénégal, avec pas mal d'incertitudes, mais l'apparition par exemple de Lamine Camara au milieu de terrain, on sait que c'est un joueur hyper talentueux. Il a vécu une année 2023 extraordinaire, qui a commencé par le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans derrière. Mais quand tu arrives comme ça, titulaire sur une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un autre sport, c'est un autre métier. Et lui, il en impose tout de suite. Donc c'est plutôt intéressant. Encore aujourd'hui, Pape Gueye, dans un registre un peu différent, où sur les sorties de balles, il venait se positionner entre les deux défenseurs. Pareil, je trouve, on a beau changer les hommes, mais je trouve que la confiance reste, et c'est peut-être le plus important pour le Sénégal.
Ouais, Mickaël, justement sur ce Sénégal, sûr de sa force. Alors Hamza le disait, si tu termines premier, deuxième, on verra bien qui tu affrontes après. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt les autres qui ont peur d'affronter le Sénégal que le contraire.
Ouais, bah c'est eux pour l'instant qui mettent le niveau, c'est eux qui répondent le mieux, je pense, au rendez-vous. Et encore, voilà, l'a dit Hamza. Les trois milieux de terrain, c'est de la jeunesse, c'est de la fraîcheur, c'est des joueurs qui ont un peu de fougue, mais qui ont aussi de la maîtrise, qui sont dynamiques, ils arrivent à bien défendre, mais aussi à porter de l'efficacité et du surnombre sur la ligne offensive. Je trouve que c'est une équipe qui promet.
Mais ils t'ont impressionné ?
Ils m'ont pas impressionné parce que on s'attend forcément à voir un Sénégal performant. Ils ont juste confirmé ce qu'ils avaient fait avant. Ils m'ont pas impressionné parce qu'on connaît la qualité des joueurs du Sénégal. On connaît, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Et aujourd'hui, je trouve juste que c'est convaincant en fait de les voir jouer et être efficaces dans leur collectif.
On a un supporter du Sénégal avec nous. Alors, je vois pas bien ton prénom. Lai avec nous. Toi, évidemment, belle victoire du Sénégal. Ça t'a convaincu, notamment cette stat hein, de 34 ans sans victoire contre le Cameroun. Bah voilà, ça te refait ta soirée, ça te fait ta journée.
Ben, ça c'est sûr. Salut tout le monde d'abord. Salut.
Salut.
Salut mes amis camerounais aussi. Parce que je vois que...
Bah t'as vu, ils étaient même pas trop dégoûtés en plus, donc tu peux y aller, hein, là, c'est la voile royale.
Avant le match, ils étaient bien gonflés, et là on les a un peu dégonflés, on va dire, avec tout le melon qu'ils ont.
Le plaisir, continent.
De battre. Ouais, le continent, comme ils disent. Mais non, c'était un match qui était plutôt, on va dire, maîtrisé dans l'ensemble, mais si on a un peu souffert 10 minutes un peu sur la fin de match, mais sinon dans l'ensemble, on les a quand même dominés, on a eu la possession même si à la fin du match, c'est eux qui ont la possession, mais je pense qu'on a plus géré nos temps faibles et nos temps forts. Avec en milieu que vous venez de dire, Pape Gueye, Lamine Camara, Pamak Tarsar, qui était blessé, qui est revenu, qui rentre tout de suite dans le moule et qui est plutôt pas mal aussi. Non, moi j'ai envie de saluer, déjà Cheikh Kouyaté pour lui envoyer un petit message par rapport à le décès de ton papa. Toutes mes condoléances, mais surtout des joueurs comme ça, Kouyaté, Gane Gueye, il les met sur le terrain, il ne branche pas, il rentre, il ramène ce qu'il va ramener. À lui aussi, je pense qu'il doit. C'est pas facile de mettre Gane Gueye sur le banc, je pense, parce que avec tout le vécu qu'ils ont eu ensemble en 2021, le mettre comme ça sur le banc, même Nampalis Mendy, hein, qui. Pour moi je le voyais titulaire aujourd'hui, mais il a aussi mis sur le banc. Il a mis Pamak Tarsar. Ben, il a confirmé. Tous ses choix, Habib Diallo, moi je voulais qu'il sorte juste avant. Il marque un but.
Non, c'est un vrai groupe en fait, là, et t'as raison de le signaler. T'as tous ces jeunes et ces anciens qui se mélangent, qui peuvent rentrer sur le terrain, s'asseoir sur le banc sans problème. Si on devait ressortir un ou deux joueurs de cette équipe, tu ressortirais qui en particulier ?
Depuis le début, on va dire Lamine Camara et Pape Gueye. Hein. Moi, Ismaël Sarr, aujourd'hui, il a fait une passe d'en but à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis Marseillais. Ça fait très longtemps.
Je t'avoue que j'ai aussi une petite faiblesse pour l'OM. Ismaël Sarr, c'est pas le même au Vélodrome, mais là, ça va mieux dès qu'il met le maillot du Sénégal.
Là, c'est pas le même, hein, parce que le match qu'il a fait aujourd'hui, il a pas été énorme, hein, mais il a fait le boulot. Passe des buts qui n'est pas facile à mettre. Mais moi, Lamine Camara, ce joueur-là, il rentre dans une équipe, c'est comme si les autres, c'est ses enfants, quoi. Je ne sais pas. Mais...
Pourtant, avec son jeune âge,
ouais, il a 20 ans.
Hein. Il a 20 ans, mais ceux qui
l'ont. Attends, Elhadji Diouf, il avait comparé à Frank Lampard et Steven Gerrard. Est-ce que toi, t'en es là aussi ou pas?
Là, il allait loin, je pense. Il est devenu un peu camerounais, mais ce n'est pas grave sur cette phrase-là. Mais non. Moi, Mané qui marque son but, il était de mieux en mieux, je pense, en fin de match. Il est en train de... Il commence tout doucement, mais il a toujours l'accélération. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient de son niveau. Mais il est là. Hein. Moi, tous les joueurs, quand ils marquent en sélection, je suis content. Mais ce mec-là, Sadio Mané, quand il marque, je suis encore plus content. C'est pas juste un joueur pour nous. Hein.
C'est la légende.
C'est un mec extraordinaire, quoi. C'est un mec déjà extraordinaire avant d'être un joueur.
Eh oui, Sadio Mané, en plus, il s'est marié juste avant la compétition, donc il a lancé ça de la meilleure des manières. Michael, alors, il n'avait pas encore marqué Sadio Mané, il avait été discret malgré la victoire contre le Gambie 3-0. Là, il n'a pas été extraordinaire non plus, mais bon, il a marqué et il montre qu'il est toujours aussi important dans le 11.
Mais de quoi on a besoin dans une équipe ? D'un leader ? C'est un leader technique. C'est pas un joueur qui parle beaucoup, mais il monte sur le terrain sa volonté. Je pense que c'est aussi pour ça que le coach lui fait confiance. Après, la force du Sénégal, c'est aussi la cohésion. On l'a vu et là, il a bien dit tous les joueurs qui sont censés être titulaires, qui sont sur le banc, ne bronchent pas. Ils encouragent. On les voit aussi haranguer sur le banc. Ils sont présents. C'est la force. Et l'importance d'une sélection, comme les joueurs n'ont pas l'habitude d'être tout le temps ensemble, c'est d'avoir une cohésion, d'avoir des automatismes, et c'est exactement ce que montre le Sénégal.
Je vais te remercier, Lai, pour nous avoir appelé. Évidemment, tu vas passer une excellente soirée après cette victoire.
C'était un plaisir. Mais je voulais juste ajouter une petite chose par rapport à Koulibaly aussi, qui était en Arabie Saoudite. Ah, je pense qu'il a encore le niveau pour évoluer en Europe, hein, parce que c'est solide encore une fois.
Eh oui, bon, 32 ans, il a fait le choix de partir dans le golf et ça se passe très bien pour lui d'ailleurs avec le brassard du Sénégal. Merci beaucoup Lai, excellente soirée, et on va basculer avec Bouba, également supporter du Sénégal. Salut Bouba.
Salut l'After.
Salut Booba.
Bon, t'es ravi également, j'imagine. Mais ça va très bien, Booba, depuis Abidjan. Et bah, pour tes Sénégalais aussi, ça se passe très bien. Est-ce que toi, t'as des joueurs à ressortir qui t'ont particulièrement fait plaisir?
Ah, moi, franchement, là, aujourd'hui, je suis vraiment ravi de l'équipe, voilà, tout ensemble. C'est juste pour dire que, voilà, le Lyon, il a vraiment rugi ce soir. On a rugi. Le vrai Lyon a rugi. Le vrai Lyon.
Eh oui. Eh oui.
Ah, voilà, voilà. Non, mais après, dans l'ensemble, moi, je trouve qu'on a une très bonne équipe et on est capable d'aller très loin dans cette compétition. Je dirais même plus, en fait, voilà, on a des ambitions beaucoup plus élevées. Ça veut dire, en fait, de garder la Coupe au Sénégal encore.
Ouais, ça y est, voilà. Pour toi, c'est bon, t'es le favori à conserver le titre.
Ah non, moi, je me proclame favori parce qu'on a une très belle équipe, on a une très belle génération. Et quand on regarde aussi, c'est sur une continuité. Parce que quand on regarde en fait toutes ces dernières compétitions que le Sénégal il a gagné en Afrique, ça veut dire que voilà les U19, les compétitions locaux et tout ça, et la dernière CAN, voilà, on peut qu'avoir cette ambition de regagner la coupe. C'est ça.
Et tu me parles du collectif Booba du Sénégal, mais est-ce que toi tu as des joueurs que tu as envie de mettre en avant dans cette équipe? On parle beaucoup de Camara, du jeune Pape Matar Sarr également. Est-ce que toi tu as des petits protégés dans cette équipe?
Non, moi je mettrai en avant ces jeunes joueurs en fait qui ont rejoint qui sont sur la continuité en fait de cette belle génération. Je louerai pas par exemple les talents de Sadio Mané, Koulibaly, tout ça, voilà. Ils ont montré ce qu'ils ont montré en fait leur vrai niveau. Mais en fait moi je mettrai en avant ces jeunes en fait qui sont excellents, Lamine Camara notamment et Pape Matar Sarr. Je suis intégré en fait dans cette équipe qui sont des très très bonnes jeunes. Ça veut dire qu'en fait, moi je dirais voilà, la relève elle est là, la relève elle est là. Voilà, on a une très belle, on a des très bons jeunes joueurs.
Et oui, bah effectivement. Alors, est-ce que les gars, je vais me tourner vers vous, Jaja et Victor. Vous avez vu le match, j'imagine, entre le Sénégal et le Cameroun. S'il y avait un taulier à ressortir de cette équipe sénégalaise, vous choisiriez qui? Un seul, hein.
Un seul. Bon, un seul peut-être. Oui, Mané, c'est la légende et qui arrive à tenir son rang et qui sait en fait rester lucide dans les bons moments. Parce que ça, c'est pas évident non plus. On a vu dans d'autres sélections souvent qu'il y en a qui essayent de jouer le héros et qui ne portent pas leur équipe. Donc je dirais Mané parce qu'il sait rester où il faut. Mais vraiment le collectif. C'est dur de sortir un joueur pour moi.
Ouais.
Ouais, Jaja dit Mané. Moi, je verrais plutôt Koulibaly. Je trouve vraiment que c'est un rock, ce mec-là. On le passe pas, les duels il les gagne, il est solide de la tête, il est bon sur les duels debout. Il est vraiment monstrueux ce joueur. Déçu qu'il soit parti de l'Europe, j'aurais aimé le regarder encore en Ligue des Champions de toutes les semaines, mais c'est comme ça. Ouais, voilà.
Bon, un attaquant, un défenseur, Mickaël, si tu devais choisir un Sénégalais ce soir? Mané aussi?
Non, Victor, il a dit. Ouais, bon, en tant que défenseur, surtout, moi j'apprécie beaucoup les défenseurs qui défendent debout. Qui gagne leur duel, il fait preuve de résistance, d'autorité. C'est un vrai leader aussi. Il motive ses troupes. Mais pour motiver ses troupes, faut être performant. Il est performant, il gagne ses duels. Ils sont solides défensivement. Pour l'instant, il fait un sans faute.
Poison, je me tourne vers toi. Les Sénégalais, est-ce que t'as un petit favori également de ton côté?
Ouais, j'aime beaucoup Mané.
Eh oui.
Voilà, c'est l'emblème du Sénégal et c'est lui qui tire la barque, donc ça fait plaisir, comme l'a dit tout à l'heure.
Booba,
ouais.
Bon, alors, deux Koulibaly, deux Mané, Hamza, ça va être à toi de trancher, là, il va falloir un troisième, un petit jeune, un petit du milieu.
S'il faut choisir entre les deux, ce serait plutôt Koulibaly. Parce que je trouve ce joueur d'une régularité folle en sélection depuis de longues années maintenant. Il a eu de rares passages à vide, mais sur la globalité de sa carrière internationale, ça reste quand même un patron immense qui avait manqué lors de la finale, notamment de la CAN en 2019. Quand il n'est pas là, tu ressens tout de suite son absence. Et c'est vrai que aujourd'hui, Arabie Saoudite ou pas Arabie Saoudite, il fait partie de ces joueurs toujours indispensables à la sélection.
Bon, ça c'est pour les bons côtés. Et sur ce match Sénégal-Cameroun, on va essayer de décerner le boulet du match. Alors je vais pas vous essayer d'influer sur votre décision, mais moi personnellement c'est André Onana qui m'a un peu déçu sur le premier but encaissé. Le dégagement au point, il est vraiment pas magique. La frappe de Sarr, alors elle est au ras du poteau, mais elle est à deux à l'heure.
Il y a une relance en début de rencontre aussi qui file direct en touche et il va tout de suite protester sur son défenseur. Je n'ai pas trop compris, peut-être qu'il s'attendait à un autre positionnement, je ne sais pas. Mais... Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement? Mais bon, comme lui n'a pas fait beaucoup d'entraînement, je
pense que c'était pas l'entraînement. Bon, Mickaël, comment t'as trouvé le match d'André Onana? C'est ça, cette star du Cameroun.
C'est exactement ça. C'est quand on dit, quand on veut élire un boulon, on va penser directement, malgré ça soit. Qu'il y ait eu des joueurs sur le terrain qui n'ont pas été vraiment performants, mais on va directement se tourner vers Onana parce qu'on attendait beaucoup de lui. Le fait qu'il vienne, on se dit, bon, il reprend les rênes dans le but. On s'attendait à justement à ce qu'il fasse des différences et il ne les a pas faites ce soir, donc enfin aujourd'hui. Donc c'est là où on voit le mal.
Bon, Derek, supporter camerounais derrière le compte La Tanière sur X, ça fait un petit moment que je me suis pas tourné vers toi, mais André Onana, là, ça te concerne en premier chef. Alors, est-ce que déjà, toi, tu l'as en travers de la gorge qu'il soit arrivé juste avant la compète, et puis en plus, rentrer dans cette cale de cette manière-là, j'imagine que ça te laisse un goût amer.
Ouais, bien sûr, c'est dérangeant qu'il soit venu en retard, mais encore une fois, c'est lui, mais c'est aussi la fédération qui lui a donné la permission de venir un peu en retard, parce que si la fédération avait été un peu plus ferme, il serait venu le 1er ou le 2 janvier comme tous les autres joueurs, donc tort partagé sur ça. Et c'est difficile de le défendre, hein, c'est 3 tirs cadrés et 3 buts encaissés pour Onana. Donc oui, forcément... il n'était pas au niveau aujourd'hui. On se demande même si on n'était pas mieux d'aller avec Ondua. Après, les autres, moi, j'étais plus sur les milieux de terrain. Je pense que les milieux de terrain, Anguissa a fait son match, mais les deux autres, Neyou et Kemen, qui l'ont accompagné, étaient quand même un peu en dessous.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Derek. Juste une question rapide sur le rôle en sélection de Zambo Anguissa. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont cette expérience des très très grands rendez-vous, mine de rien. Je trouve qu'il n'est pas forcément mis en valeur. Je trouve qu'on n'utilise pas assez son profil. C'est un joueur qui est capable aussi de se projeter, d'avoir un apport offensif, parce que c'est un joueur qui quand même a une certaine finesse technique. Je trouve qu'on ne l'utilise pas assez, justement, cette finesse. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est vraiment un débat qui c'est un gros débat au Cameroun. Certains diront comme toi que c'est peut-être l'équipe ou en tout cas le staff qui ne sait pas l'utiliser, et d'autres diront le contraire, qui prend pas ses responsabilités de leader. Ouais. Moi, je suis plutôt sur le deuxième. Moi, je pense qu'il prend pas réellement ses responsabilités. Et j'irais même peut-être un peu plus loin, peut-être qu'on en demande un peu trop à Zambo Anguissa. Okay. Voilà. Moi, je pense qu'il est à son niveau et il faut faire avec.
Ok.
Bon, merci beaucoup, Derek. On va te laisser.
Je voulais juste rajouter quelque chose. Notre média, c'est La Tanière 237, donc sur X et sur TikTok. Et donc, il y a le 237 et sur YouTube, La Tanière TV. Donc, merci pour ce petit échange. Mickaël Siani, on n'oublie pas la matière.
Et, c'est gentil. Ouais. Merci.
Merci beaucoup, Derek.
Je dois vous quitter, c'est Bouba.
Eh oui, mais merci beaucoup, Bouba. J'allais te remercier également après une belle soirée pour.
Merci, je vous remercie parce que je voulais vous dire aussi que je rate jamais vos émissions. Tous les jours, je suis connecté. Même là, je suis au travail, mais tout le temps connecté.
C'est adorable, Bouba. Voilà. Merci Bouba, reste avec nous jusqu'à.
Mon pote qui est sur la route aussi, qui s'appelle Bay, et merci à vous.
On embrasse Bay et donc reste avec nous jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations tous les soirs en direct d'Abidjan. Évidemment, merci à Derek. On se retrouve dans quelques secondes sur RMC pour l'After CAN.
RMC, l'After CAN.
Aurélien Thiersin.
Ça c'est du poison Mobutu. Vous êtes sur RMC, l'After CAN.
Sur RMC. D'ailleurs c'est Mickaël Siani qui m'a aidé à écrire ce titre.
Magnifique. Alors,
il m'a produit pendant
10 ans,
une dizaine d'années.
Et maintenant tu voles de tes propres ailes.
Oui, maintenant j'étais un moment avec Universal Music. Aujourd'hui je suis avec un label indépendant, CGM Productions.
Bon, explique-nous déjà ce blaze incroyable, Poison Mobutu.
Poison Mobutu, le poison vient d'un groupe mythique de rap français, Arsenic, qui sont des légendes du rap français avec Bissona Bisso. Et le Mobutu est venu parce que tout simplement je suis fier de ma patrie, le Congo, la RDC, exactement.
Alors c'est quoi ce son? T'en es où dans ta carrière?
Bah ça avance, Là, des dimanches d'ailleurs, je tourne un clip avec Suspect 95,
ah oui,
qui était l'invité de la semaine dernière.
Il y a star du rap ivoirien.
Il y a deux jours. Et ouais, exactement. Et je sors un mini-album au mois d'avril. Donc là, en fait, sur la Côte d'Ivoire, je fais plein d'émissions à gauche.
Ça marche en Afrique, en France.
Oui, super bien, partout, super bien.
Dans toute l'Afrique francophone.
Ça va, ouais, super bien.
Bon, bah magnifique. Ravi d'être avec toi, Poison.
C'est cool. Et moi aussi, pareil. C'est la première fois, en plus, à parler de foot.
Tu parles pas trop de foot,
Mickaël.
Il parle pas trop de foot, finalement.
En fait, c'est marrant. Alors, entre vous deux, voilà, ça te permet de parler d'autre chose.
L'anecdote avec Mickaël, en fait, quand à l'époque, ben voilà, il était avec Lorient, Bordeaux. Je ne supportais pas l'équipe, je supportais mon pote. C'est marrant, j'étais dans le stade, dès qu'il avait le ballon,
il pensait qu'il pouvait marquer des buts de ma surface.
Incroyable.
Mais est-ce que t'as acheté un maillot de Lorient sur Floqué Siani alors?
Il me l'a offert.
Ah bah ouais. Quelle chance.
Non mais c'est vrai que voilà, se connaissant depuis très jeune, on était au lycée ensemble, il a toujours été intéressé par sa musique et moi par le football. On a fait nos chemins séparés, mais voilà, toujours retrouvés dans nos milieux respectifs et toujours en contact. On a plutôt bien réussi tous les deux. Donc
les gens sont souvent étonnés de nous voir ensemble. Quoi. Putain, ça fait des lustres que vous êtes ensemble, les gars.
Bon, bah, magnifique. Merci, les gars. Hamza Rahmani, toujours avec nous, journaliste RMC. Jaja et Victor, supporters français-ivoiriens à Abidjan depuis un moment, 10 ans et 3 ans, respectivement. On a écouté donc ce son de Poison Mobutu et on va parler désormais de Guinée-Gambie avec cette victoire guinéenne 1-0. Alors c'était pas flamboyant, mais avec ce but d'Aguibou Camara en deuxième période, ça suffit à marquer 3 points supplémentaires. Et la défaite camerounaise fait que la Guinée, avec 4 points, se retrouve très bien placée pour accéder au 8e de finale. Et on est avec Mohamed, supporter guinéen, qui est avec nous sur RMC. Salut Mohamed.
Salut tout le monde.
Salut Mohamed.
Salut.
Bon, alors la Guinée qui n'était pas qui reste un outsider des Coupes d'Afrique des Nations, qui restait sur 2 huitièmes de finale consécutives d'ailleurs, bah là ça sent déjà bon pour une 3e de suite, hein.
Oui, ça sent bon sans l'être, parce que comme je disais tout à l'heure au standard, c'est que ce qui est dommage, c'est que la Guinée n'a pas pu concrétiser toutes, enfin pas toutes parce que c'est rare, mais concrétiser ses occasions franches qu'elle a eues. Pour la différence de but, en fait, parce qu'après, derrière, si le Cameroun gagne contre la Gambie, imaginons qu'ils ont le même nombre de buts, en fait, ou le Cameroun a un but en plus, ce serait regrettable.
Eh oui, ça se départage à la différence particulière, mais il y a eu match nul, donc après, t'as raison, faut marquer beaucoup de buts, sachant que tes attaquants, notamment, alors Bayo, il a touché le poteau, mais même Aguibou Camara, avant de marquer, vous avez pas mal croqué la feuille, finalement, dans ce match-là, ça aurait pu se décanter bien avant.
Bah oui, parce que le match, c'est quoi? C'est que on aurait dû plier. Bon, pour moi, le match, il aurait dû être plié en première mi-temps. Parce que la deuxième mi-temps, les Guinéens sont présents, certes, ils mettent ce but-là, mais après, la Gambie commence à se réveiller après le but, hein. Et c'est, la physionomie du match, excusez-moi, qui a fait que la Gambie n'a pas pu égaliser. Parce que quand on regarde le match, la Guinée domine, sans dominer.
Quand tu vois ça, tu te dis les huitièmes de finale, donc la qualif pour toi c'est pas dans la poche, parce que le dernier match c'est évidemment le Sénégal, c'est même difficile finalement.
Oui, parce que les gens, on va dire, ils sont en train de tirer sur des Camerounais bêtement, en quelque sorte, parce que le Cameroun, certes, c'est une grande nation, il y a rien à dire sur ça, mais c'est pas parce qu'ils ont perdu contre le Sénégal 3-1 et faire un match nul contre la Guinée qu'ils sont éliminés. Non, on les enterre trop vite, moi je trouve, les Camerounais, ils peuvent toujours se qualifier, hein.
Bon, on va écouter un petit son d'Aguibou Camara, le buteur pour les Guinéens ce soir, celui qui donne la victoire, Aguibou Camara.
Quel match! Je suis vraiment content, je suis content de l'équipe. On a travaillé, on a beaucoup travaillé, et puis on a décidé de gagner ce match. Parce que l'année dernière, on s'est fait éliminer par la Gambie. Donc cette fois-ci, on s'est décidé nous sommes venus ici pour gagner, en fait. On va préparer le match contre le Sénégal. On sait que la compétition est loin. Donc on va aller à l'hôtel pour se reposer et puis pour préparer le match de Sénégal.
Hamza, Ramani, la Guinée pour toi, c'est du positif à sortir de ces deux premiers résultats où effectivement bah, le plus difficile match c'est le dernier et bah, y a pas grand chose de jouer finalement.
Le positif des résultats, je suis pas sûr parce que finalement moi c'est plutôt le contenu que j'ai envie de valoriser et sincèrement alors c'est terrible parce que ce premier match face au Cameroun honnêtement. Le carton rouge de Camano, c'est le tournant du match parce qu'il y avait quand même une maîtrise, je trouve, sur la première période face à une équipe camerounaise qui avait beaucoup de mal à bah, déjà se créer des situations de but. Mais c'est vrai que ça me peinerait effectivement que la Guinée termine troisième. La Guinée a 4 points qualifiés. On va pas se mentir sur les dernières compétitions. J'ai pris les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, enfin depuis le passage à 24, et les deux derniers championnats d'Europe, là aussi depuis le passage à 24. Le pire meilleur troisième qualifié, s'est qualifié avec 3 points et une différence de but soit négative, soit de 0. C'est l'Irlande du Nord qui est passée avec 3 points et 0 en différence de but en 2016. Donc à 4 points, la Guinée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sauf cataclysme. Mais au vu des résultats des autres poules, il y a eu pas mal de nuls. Je vois pas comment c'est possible. La Guinée sera du rendez-vous normalement des huitièmes de finale. Maintenant, à quelle position ? Je vais pas me répéter, hein, je le disais déjà tout à l'heure, mais au vu des... Enfin, les tableaux aujourd'hui sont illisibles, donc tu peux affronter le Cap-Vert qui est premier du groupe B en terminant troisième de la poule C, et en même temps avoir un tirage, enfin un tableau plus compliqué. Moi, c'est surtout le match face au Sénégal où il y a la possibilité face à un géant du continent, en tout cas face à l'une des rares équipes sur ce début de compétition qui a montré beaucoup de certitude, de voir en fait ce que vaut cette Guinée, mine de rien, parce que le Cameroun, le premier match face au Cameroun avec ce carton rouge, ça a faussé la physionomie du match. Mais sur les 45 premières minutes à 11 contre 11, je trouve qu'il y avait quand même une supériorité guinéenne. Et sur ce match-là face à la Gambie, effectivement, le match aurait pu être plié bien avant.
Et Michael, la Guinée sans Serou Guirassy, on le rappelle, il n'est toujours pas revenu, il était sur le banc. Ce soir, il n'est pas rentré, c'est Bayo qui était tout seul en pointe. Ça peut aussi donner un coup de fouet à ces Guinéens qui, comme le dit Hamza, sont à 90% en huitième de finale.
Oui, Guirassy qui peut faire du bien, mais Hamza a raison. C'est la qualité aujourd'hui qui nous a montré que la Guinée était prête. J'ai trouvé une Guinée, surtout en première mi-temps, avec de très bonnes phases de jeu. On a vu des passes dans les intervalles, appuis, remises de la profondeur. Alors ils ont pas été efficaces devant, mais je trouve que voilà, en plus s'ils avaient marqué en première mi-temps, ils auraient eu beaucoup plus de confiance derrière, ils auraient déroulé certainement. On le saura jamais, mais j'ai trouvé une Guinée qui jouait assez bien au ballon.
Je vais remercier Mohamed, notre auditeur guinéen qui a appelé. En deux mots, si tu me devais me ressortir un joueur de cette équipe de Guinée, tu me dirais qui ?
En deux mots, j'aurais dit la défense d'Irabi.
Ouais, c'est ce qui t'a plus convaincu.
Ouais, parce que l'aura fait un bon match propre. Après, il prend un carton jaune bête, mais il est propre, il est simple et il est efficace dans ses relances, dans ses interventions.
Bon, magnifique, après, on te souhaite une bonne...
J'attends Serou Guirassy, moi, c'est tout.
Eh bien sûr, bah, évidemment, tout le monde l'attend, Serou Guirassy, avec ses 17 buts en Bundesliga, on a envie
après,
de voir.
Voilà, quoi. Le boulot, on va dire, il est fait, comme Hamza a dit, il est fait à 90%. S'il est présent sur le dernier match et la suite de la compétition, si on va loin, je l'espère, tant mieux.
Ouais, ça peut être intéressant. Merci beaucoup, Mohamed, de nous avoir appelé sur RMC au 32-16. Excellente soirée. On n'a pas encore parlé du Cap-Vert, qui, mine de rien, était, avant le Sénégal, la première équipe qualifiée en huitième de finale. On va aussi parler de l'Algérie, évidemment, avant le grand match contre le Burkina Faso. Demain, à 14h, l'Algérie, déjà sous pression après son match nul contre l'Angola lors de la première journée. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Cannes.
Aurélien Thiersin.
1h02 à Paris, minuit 2 ici à Abidjan, l'After Cannes comme tous les soirs jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également la radio digitale spéciale Cannes évidemment avec tous les matchs commentés en intégralité. Soit 14h, 17h, 20h, la même chose jusqu'à la fin de la compétition Génération Africa. À 20h, vous avez tout pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. On est toujours avec Michael Siani, avec Poison Mobutu, avec Hamza Ramani, Jaja et Victor, fidèles auditeurs de l'After qui vivent à Abidjan, qui sont avec nous au plateau du Nouveau Hôtel, on le rappelle, hein, c'est ouvert à tous les supporters, les fans de foot qui veulent venir nous voir, intervenir au micro de l'After. Tout le monde est le bienvenu. Un petit mot du Cap Vert, parce qu'on n'en a pas parlé encore, et ce qui est assez dingue, c'était le premier qualifié en huitième de finale. Ça sera déjà la troisième fois de l'histoire des Requins Bleus qui vont passer la phase des poules. Et c'est 600 000 habitants, c'est un des tout petits pays de l'Afrique. Il y a les Seychelles à peu près dans ces eaux-là, mais c'est assez dingue de voir ces Requins Bleus passer. On va écouter Ryan Mendes qui a marqué pour la victoire 3-0 du Cap-Vert contre le Mozambique aujourd'hui et qui assure donc la qualif en huitième de finale. Ryan Mendes.
Que de la joie aujourd'hui. On avait encore de faire un gros match, de valider notre qualification, c'est chose faite. Maintenant, voilà, on a un match contre l'Égypte, un match bonus. On va se reposer et prendre que du plaisir, quoi.
Hamza, franchement, 600 000 habitants, pardon, je leur dis, c'est assez dingue de se dire que le Cap-Vert va déjà aborder son troisième huitième de finale de son histoire.
Ah non, mais c'est exceptionnel. Et puis, il y a aussi le contenu qui est à souligner. Alors, certains diront que le premier but, le coup franc de bébé, c'est le gardien. Certains diront qu'il y a une erreur individuelle sur OK, mais je prends beaucoup de plaisir déjà à suivre cette sélection capverdienne. Et effectivement, il y a eu ces résultats, notamment le quart de finale en 2013, où ils avaient été éliminés face au Ghana, alors qu'ils font un super match. Et que je rappelle que c'est le gardien ghanéen ce jour-là qui est élu homme du match, preuve de la prestation à l'époque des Capverdiens. Et c'est vrai qu'il y a quelques joueurs de cette génération. Évidemment, on pense à Ryan Mendes. Il y a le gardien Vosinha qui était présent aussi il y a un peu plus de 10 ans maintenant en Afrique du Sud. Donc c'est fou de voir que cette sélection qui a disputé cette première CAN en 2013 est en train d'enchaîner les performances. Et j'ai envie de les voir face à un gros. J'ai envie de les voir déjà lors de la prochaine journée face à l'Égypte. On rappelle que le Cap
Vert match bonus, hein, Ryan Mendes, il se permet de dire c'est un match bonus, c'est magnifique.
Parce que le Cap Vert est assuré de terminer à la première place de sa poule, ce qui semble fou après deux journées. Donc est-ce que tu vas mettre une équipe quand même solide, parce que tu as aussi cette volonté de continuer cet apprentissage avant d'arriver en huitième de finale, ou est-ce que tu fais totalement tourner, tu mets une équipe B pour préserver les joueurs, mais si tu fais tourner, sachant que le premier du groupe A, en l'occurrence le Cap-Vert, jouera le dimanche 28, ça fait quasiment 10 jours sans jouer pour les joueurs, c'est peut-être pas une gestion si évidente pour Boubista, le sélectionneur du Cap-Vert, mais en tout cas, sur ces deux premiers matchs, franchement, c'est une sacrée belle surprise.
Ouais. Quatrième participation, Mickaël, en un mot, juste le Cap-Vert, c'est assez incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. C'est 600 000 habitants. Là, il y a des binationaux, il y a Steven Moreira, d'ailleurs, que tu as connu à Lorient. Ouais. Il y a quelques joueurs comme ça. Il y a Logan Costa qui joue au TFC, mais voilà, ça reste un pays microscopique à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Afrique, et ils sont en train d'enchaîner une décennie exceptionnelle.
Ouais, c'est. J'ai envie de dire waouh, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. J'allais parler d'insouciance, mais même pas, parce que l'insouciance, c'est plus un mot approprié pour les jeunes joueurs qui jouent sans peur. Mais c'est une équipe qui a de l'expérience. Il y a des joueurs il y a beaucoup de joueurs qui ont la trentaine.
Bébé,
il a 30 ans, 30.
Un petit peu plus vieux, ouais. Ancien de Manchester United, voilà, 33. Ont, ouais. 33.
Et le fait qu'ils puissent tenter d'aussi loin, ils sont lâchés, ils ont confiance en eux. C'est une équipe qui va dans le même sens et je trouve que voilà sur ce qu'ils ont fait depuis le début de la compétition là, c'est extraordinaire.
Et je crois que ça bringuait bien, en tout cas dans les vestiaires et après le match. On va essayer d'aller les voir à leur hôtel à Abidjan, c'est pas loin de l'aéroport. On va essayer d'aller faire un tour avec ces Requins Bleus parce que c'est un pays lusophone, mais il y a beaucoup de francophones finalement dans cette équipe. On va parler de l'Algérie. Beaucoup d'entre vous attendez ce moment, attendent surtout le match de demain, Algérie Burkina Faso à 14h. Ça va être hyper important pour les hommes de Jamel Belmadi après le match nul de la première journée, un partout contre l'Angola. Hamza, je sais que ton cœur forcément va battre pour les Fennecs également. Il y a des mauvais souvenirs qui sont présents. Cette élimination au premier tour lors de la dernière CAN, cette élimination pour le Mondial 2022 contre le Cameroun, et avec ce match nul contre l'Angola, à la fin du match, il y avait déjà la peur au ventre. Et bon, le match c'est demain, 14h contre le Burkina Faso, ça va être très très compliqué.
Bien sûr, ça va être très compliqué déjà parce qu'il y a un adversaire à valoriser, chose que l'on fait pas assez, je trouve, en l'occurrence le Burkina Faso qui est l'une des équipes les plus régulières en Coupe d'Afrique des Nations sur cette dernière décennie. Je le rappelle, c'est trois demi-finales sur ses dernières participations en l'espace de 10 ans pour le Burkina Faso. C'est un Burkina qui évoluera à domicile parce que Bouaké, ce n'est pas loin du Burkina, parce qu'il y a aussi une forte communauté burkinabé du côté de Bouaké. Donc clairement, les étalons évolueront à domicile. Donc ce sera un contexte particulier pour les Algériens, mais se sont mis dans cette situation tout seuls. Donc il va falloir assumer.
On va écouter Ismaël Benacer, milieu de l'AC Milan, milieu de l'Algérie, alors qui a pas fait un grand match contre l'Angola. Il a envie de se rattraper. Justement, il repasse ses souvenirs au crible avec cette équipe d'Algérie, notamment la défaite contre le Cameroun pour le Mondial 2022. Il assure que tout ça, c'est du passé.
Cameroun, on l'a mal vécu et on n'est pas du tout hanté par ce qui s'est passé. Au contraire, on a appris de nos erreurs. On va le démontrer, Inch'Allah, à partir de demain. Et même si ça va être difficile, on gérera mieux ces matchs-là.
Bon, grâce à Dieu peut-être pour l'Algérie demain. On va prendre Mamadou, supporter de l'Algérie, qui a fait le 32-16 sur RMC. Salut Mamadou.
Salut les gars, ça va?
Salut Mamadou.
Ouais, tout va bien et toi?
Oui, ça va.
Les Algériens n'ont pas le droit à l'erreur demain. Tu vas trembler un petit peu à 14h là. Enfin, 15h pour toi.
Ah, ça va. Ça va être très très compliqué. Parce que déjà... Franchement, si Belmadi nous remet des joueurs, en fait, qui reviennent à peine. Hein. Certains étaient blessés, certains ont repris, comme Benacer avec le Milan AC. Je pense qu'à un moment donné,
d'ailleurs, Benacer incertain demain.
Ouais, voilà.
Benacer incertain.
Peut-être parce que il a débuté le match contre l'Angola et que à un moment donné, quand on reprend, c'est compliqué. Mais je pense qu'on devrait être plus humble. Et c'est ça le problème du pays, de l'Algérie, c'est que à chaque compétition, on croit qu'on est comme en 2019, alors que non, c'est passé. Par contre, il y a des joueurs qui restent encore et comme Aïssa Mendy, je ne comprends pas comment il peut être titulaire. Franchement, voilà, face à des joueurs qui vont très vite, Aïssa Mendy, moi, je. Après, beaucoup critiquent Mahrez, hein, mais Mahrez sur un coup de génie, un coup d'éclat, sur des coups de pied arrêtés, voilà. Mais bon, moi, j'ai peur parce que demain on affronte le Burkina et le Burkina, c'est pas l'Angola, c'est ouais. Un ton au-dessus, c'est de l'expérience en plus. Et ça va être très 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 compliqué. Donc demain, si on ne gagne pas, je pense qu'on peut rentrer à Alger, quoi, tout simplement. Puisque mais Belmadi, et il y a une chose aussi. Hein. Le gros vas-y, problème, vas-y. C'est Djamel Belmadi.
C'est-à-dire que Djamel encore lui, Belmadi, encore lui.
Oui, encore lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une attitude sur le banc de touche, en fait, qui m'exaspère. C'est-à-dire que t'es entraîneur. T'es pas supporter, t'es entraîneur. Il est là à râler sur tout le monde, sur les ramasseurs de balles, sur le quatrième arbitre, sur occupe-toi de ton équipe, fais-la jouer au football.
Est-ce que Djamel Belmadi peut se réinventer finalement après autant de temps sur le banc, hein. Il est arrivé avant la CAN 2019, alors il l'a gagné assez rapidement, donc il est monté très très haut. C'est vrai que depuis c'est plus compliqué. Tu vois, Michael, est-ce que.
Mais il l'a pas fait Djamel en 6 ans, donc il le fera pas en 6 heures.
Et voilà. Non, ça c'est l'avis d'Amza, Mickaël.
Non, la seule chose qu'il peut faire, je pense, Belmadi, c'est avoir le bon discours. Et effectivement, comme le dit Amza, il va pas changer tout en. Ah, mais c'est avoir un discours cohérent, de mettre une équipe en place qui pourra être compétitive et relever le défi. Après, l'Algérie, ça passe ou ça casse. Là, c'est un gros test pour eux. Ils gagnent, ça va leur permettre de justement se rebooster et de repartir de l'avant et prétendre à se qualifier et aller beaucoup plus loin. Et s'ils perdent, effectivement, Mamadou l'a dit, c'est retour au pays.
Mais t'as le sentiment qu'il y a un manque d'humilité. Moi, j'ai justement l'impression que les Algériens, ils ont un peu peur presque après ce match nul contre l'Angola. Tu sentais à la fin du match de la tension.
Il y a de la tension, manque d'humilité... Le problème, c'est que on se repose beaucoup sur ce que les joueurs ont fait avant. Et aujourd'hui, on se dit, Mamadou l'a dit, Mahrez est capable de, un tel est capable de. C'est, je l'ai dit sur la dernière émission que j'avais faite, c'est la constance. c'est pas un match qu'il faut sortir, c'est pouvoir être performant sur toute la compétition.
Bah tiens, justement, Jamel Belmadi sur Riyad Mahrez, sur les critiques, pour lui, ça date pas d'aujourd'hui. Il dit en 2019, il était déjà critiqué, il écoute pas les journalistes. Mahrez, c'est le champion d'Europe. Il écoute pas du tout les critiques, on est juste concentré sur le match. Mamadou, sur le cas Riyad Mahrez, toi, c'est quoi ta position? Est-ce qu'il doit sortir de l'équipe? Est-ce que tu, pour toi, il joue à deux à l'heure? Ou ça reste un élément moteur et un mec qui peut te claquer un but exceptionnel à n'importe quel moment?
Bah, moi, ma position, c'est qu'à partir du moment où Jamel Belmadi fait de lui son joueur taulier, son joueur sur qui il se repose, en tout cas techniquement, bah c'est compliqué parce qu'on va jouer avec un joueur sur une mi-temps, sur 45 minutes il peut faire des folies, il peut faire quelque chose, mais au-delà de 50 minutes bah on l'a vu hein, au-delà de 50 minutes ils sont tout plein de joueurs à bah baisser d'un ton physiquement, et là quand t'as affaire à des joueurs qui vont vite de la première à la 90e minute, bah t'es pas voilà, c'est très 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 compliqué. Mais oui, l'Algérie, moi, franchement, on est comme le Cameroun un petit peu, en fait. On se repose sur notre passé, sur des victoires. Et à un moment donné, il faut redescendre et refaire un travail avec une nouvelle génération et partir de l'avant. Il y a plein de pays qui l'ont fait, qui sont repartis de zéro et qui ont réussi à reconstruire, à rebâtir quelque chose. Et voilà. Mais Belmadi, déjà, pour moi, il aurait dû démissionner après sa non-qualification à la Coupe du Monde. Voilà. Ouais. Déjà, tu fais une canne, tu passes même pas le premier tour.
Bah, c'est sa canne 2019 qui le sauve depuis ce moment-là, en fait.
Oui, mais il bénéficie du travail de Vaïd quand il prend l'équipe en 2019. Ça, il le dit jamais.
Ah, t'es un peu dur. Je te vois.
Oui,
je te vois hocher la tête.
Vaïd, il a quand même mis une espèce de discipline aussi. Il a apporté. Vaïd, quand il qualifie le Maroc, après qu'on le jette comme une chaussette. Voilà, Vaïd, c'est quand même quelqu'un.
Non, mais je te dis ça, alors que moi, Vaïd, j'ai un immense respect pour ce qu'il a fait, aussi bien en Algérie, mais pour tous les pays africains qu'il a pu entraîner. Mais entre Vaïd et Belmadi, il y a quand même 4 ans où il y a n'importe quel individu qui se présente au siège de la Fédération algérienne est devenu sélectionneur. On a eu Rayevach, Madjer, oui, on a eu oui. Alcaraz, on a eu Liskens, on a eu peut-être même que j'en oublie un autre, tout ça en l'espace de 3 ans. Et lorsque Belmadi arrive, sincèrement, lui, il apporte aussi cette discipline. Rappelle-toi du reportage, je sais pas si tu l'as vu, du film documentaire Beansport après la victoire à la CAN 2019, où il y a cette fameuse anecdote où à l'époque, Mahrez arrive avec 30 secondes de retard dans le bus pour prendre le chemin de l'entraînement. C'était un stage au Qatar avant la Coupe d'Afrique des Nations, et il lui a fait: tu montes pas dans le bus. Il a pris un taxi pour venir au stade et il ne s'est même pas entraîné. À l'époque, Mahrez avait cette discipline.
Mais depuis, il est devenu copain avec les joueurs, avec certains joueurs. Et à partir du moment où tu deviens copain avec certains joueurs, eh ben, c'est plus la même chose.
Je voulais juste dire un truc
sur par rapport à Michael Siani là, qui est avec vous sur le plateau.
Vas-y Mamadou.
Bah en fait, j'aurais pu jouer contre toi parce que je joue en vétéran à Fresnes. Et finalement, j'ai pas joué parce que j'étais blessé. Mais je t'attends au match retour.
Mais tu joues quel poste, Mamadou?
Il me semble qu'on a gagné, non?
Ah, moi je joue au mitard, mais vous nous avez battu, mais parce que j'étais pas là.
je vais te remercier Mamadou, merci beaucoup d'avoir appelé RMC ce soir pour parler de l'Algérie. Excellente merci soirée à toi vous, et bon courage pour demain.
Merci pour
devant,
que vous
devant
faites.
Ton poste certainement. Et on va accueillir Rachim, autre supporter de l'Algérie qui a fait le 32-16. Salut Rachim.
Bonsoir messieurs.
Salut Rachim.
Est-ce que
bonsoir.
Vous m'entendez?
On t'entend très bien Rachim, ravi d'être avec toi ce soir dans l'AfterCan. Alors attends, moi j'ai quand même entendu beaucoup de négatifs sur la Algérie, beaucoup de peur.
Je voulais juste intervenir car je suis complètement à l'opposé de ce que vient de dire notre ami Amadou, parce que je le trouve assez dur quand même avec l'entraîneur, avec l'équipe d'Algérie, avec le ressenti déjà que nous avons. Moi personnellement, je reste assez confiant pour le match de demain. Il y a des choses qui ont été dites concernant la constance de l'équipe d'Algérie. Il faut pas oublier que l'équipe d'Algérie n'a pas perdu depuis le début de cette année 2023, que l'équipe d'Algérie a terminé meilleure équipe lors des qualifs de cette CAN, l'une des meilleures défenses avec 2 buts encaissés. Donc dire que Aïssa Mondi a été catastrophique dans un match où on encaisse sur un penalty venu qui tombe du ciel, hein, parce que Serge Longola a réagi en deuxième mi-temps, mais il n'a rien fait d'extraordinaire, hormis maintenir la balle et avoir le péno. Moi, j'ai pas en tête un tir cadré de Longola en deuxième mi-temps.
Bah, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Effectivement, le match a été quand même positif pour les Algériens. Il y a eu des bonnes choses, bon, bah, malgré le résultat nul. Toi, tu vois du positif. Et demain, le Burkina à 14h, ça t'inquiète quand même ou pas?
Le Burkina, c'est une équipe qui nous a pas réussi, mais qui nous a réussi quand même. Parce que dans notre historique, on s'est qualifié en Coupe du Monde en 2014 face au Burkina Faso. On les a également joués lors des qualifs en Coupe du Monde, avant de jouer le match barrage face au Cameroun. 2022, merci. On les a pas battu, mais on n'a pas perdu contre eux. On sait très bien que ça va être un match très compliqué demain à 14h. Je pense que les joueurs, ils sont conscients que nous avons une force en notre équipe. Il faut savoir juste, hein, pour le petit exemple, le Cap-Vert qui est qualifié aujourd'hui a pris 5 à Alger. 5-1, il y a 2 mois à peine, hein. Donc, moi, je sais qu'on est solide, on a un très bel effectif. Maintenant, il y a les discussions autour de Mahrez, autour de Intel, le milieu terrain. Moi, je reste confiant. Mahrez, il est très bon. Certes, il a le droit d'être mauvais sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs, mais c'est un joueur qui
sur
est
sur un an,
très
sur 2 ans, sur 3 ans.
Non, pas du tout. Je suis désolé parce que je pense que les gens, ils sont assez durs avec lui. Si on regarde le match face à l'Angola, il a pas été catastrophique, hein. Certes, il a pas été vu comme Belaïli sur le côté gauche, mais sur son côté, il a joué juste, il a joué propre. Maintenant, Attal n'a pas été bon. Shelby a été moyen, même si on lui a donné le titre de meilleur joueur sur le match. Moi, je comprends pas pourquoi on lui a donné ce titre-là.
On comprend jamais pourquoi les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs sur cette CAN, mais passons, ouais, t'as raison.
Non, on parle pas d'être meilleur joueur sur toute une CAN, on parle sur un seul match. Shaibi, ce n'est pas le joueur qui est sorti du lot lors du premier match face à l'Angola, je suis désolé. Moi, j'aurais mis Aït Nouri, j'aurais mis Belaïli, j'aurais mis Bounedja. Le côté gauche, il fonctionnait avec Benacer, avec Belaïli, Shaibi et Aït Nouri, pardon. Le côté droit, on a très bien vu qu'il y avait des défaillances, ça jouait pas au ballon. Maintenant, je pense que Belmadi a très bien vu cela. Demain, je ne sais pas si on pourra donner un 11 qui va rentrer. On parle de Benacer peut-être blessé, donc why not Zerouki qui va rentrer à sa place. Il y a Aouar, il y a Boudaoui. Il y a Amoura qui revient.
Il y a la Boudaoui.
Pardon. Je pensais que peut-être que Belmadi ne s'est pas.
En tout cas, t'as raison de souligner, Hachim, le retour de Mohamed Amoura de suspension.
Aurélien, très rapidement par rapport à ce que tu dis, Rachim, t'as commencé ton propos en parlant d'une série d'invincibilité. Je rappelle que la précédente Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie restait sur 34 matchs d'invincibilité. Il y a eu le 35e match face au Sierra Leone lors de la première journée que tu ne bats pas mais que tu ne perds pas. Le 36e match, du coup, c'est la défaite face à la Guinée équatoriale et tu rentres à la maison au premier tour. Donc, série d'invincibilité sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Au final, faut être présent le jour J. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc,
on va vivre tout ça sur la radio digitale d'RMC, les gars. 14h, heure Abidjan, 15h, heure Paris, Algérie, Burkina Faso. Merci beaucoup, Rachim, de nous avoir appelés.
Et Inch'Allah, demain, on va gagner. Merci à vous pour votre accueil.
On croise les doigts pour toi et pour tous les Algériens. Merci, Rachim. On se retrouve.
Merci aux Ivoiriens pour leur accueil et l'organisation de cette superbe CAN. Merci à vous.
Eh ben magnifique, merci beaucoup Rachim, excellente soirée à toi. On se retrouve dans une minute sur RMC pour l'After CAN, la dernière partie.
RMC, l'After CAN.
Aurélien Tiercin.
Bon, encore quelques minutes ici dans le studio d'Abidjan pour l'After CAN, encore 7 minutes. pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est 1h23 à Paris, minuit 23 ici à Abidjan. Et après avoir parlé de l'Algérie, on va se pencher sur la Tunisie qui joue demain soir contre le Mali. Autre gros match dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Michael. La Tunisie, là c'est encore pire que l'Algérie, défaite 1-0 lors de cette première journée contre la Namibie. Est-ce que toi t'es inquiet pour cette Tunisie et est-ce que tu la vois sortir au premier tour?
Tout comme l'Algérie, ça, je pense.
Au même niveau, pas plus pour la Tunisie.
Plus, mais le match de demain va pouvoir nous en dire plus sur la Tunisie. Il faut qu'ils puissent s'imposer pour pouvoir espérer. Là, ils ont perdu. Je trouve que footballistiquement, ça n'a pas été terrible non plus.
C'est clair.
Ils ont été très décevants. Va falloir qu'ils se relèvent vite parce que ça va être une grosse déconvenue sinon.
Ouais, Hamza, la Tunisie, j'imagine comme nous tous, t'as pas été convaincu pour la première journée contre la Namibie. D'ailleurs, une petite info de Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie. Bon, alors qui parle notamment du fait qu'ils vont jouer à 100 km de la frontière du Mali, qu'il y aura une forte communauté malienne, ouais. Mais que ça l'inquiète pas. Et il rajoute que Aïssa Laïdouni, qui était pas titulaire d'ailleurs lors du premier match, a mal au ventre, il a eu des vomissements pendant 2-3 jours, donc il est pas au top. Bon, on va voir, il pourra commencer peut-être parce qu'il est entré en seconde période contre la Namibie. Mais même question que pour Michael, est-ce que tu es inquiet pour cette Tunisie?
Je suis inquiet parce que c'est une équipe qui ne produit pas beaucoup de jeux, qui ne produit pas beaucoup de situations de but et d'occasion, pas seulement face à la Namibie, hein, mais même sur ces derniers mois. Il y avait eu une victoire intéressante face à l'Égypte où le contenu était plutôt rassurant. C'était, je crois, en septembre ou au mois d'octobre, un match amical 3-1, me semblait-il. Mais effectivement, je suis plutôt inquiet, d'autant plus que là, tu vas affronter un Mali qui arrive en pleine confiance, qui jouera donc, comme tu le disais, Aurélien, à domicile. Et puis un dernier match face à l'Afrique du Sud, donc les deux meilleures équipes de cette poule. Oui, il va falloir créer un exploit. Mais en même temps, les Tunisiens, c'est au moment où on s'y attend le moins qu'ils répondent présent et qu'ils vont sortir. Rappelle-toi, il y a deux ans, ils font...
Alors c'est quoi pour toi les points positifs, les espoirs pour les Tunisiens?
Moi, alors, je sais que beaucoup de Tunisiens ne seront pas forcément d'accord, mais moi, j'ai aussi une tendresse particulière pour ce joueur, c'est Youssef Msakni qui joue sa huitième Coupe d'Afrique des Nations.
Certains diront qu'il est égalé comme André Ayou.
Oui. Certains diront qu'il est trop vieux, qu'il est. Moi, je reste persuadé que ce joueur, et il l'a fait déjà il y a deux ans face au Nigeria, c'est lui qui a inscrit le but. Il est capable, effectivement, de porter toute une sélection, mais il est capable de le faire peut-être sur un match ou sur deux matchs. Est-ce qu'il est capable de le faire sur une compétition? J'en suis moins sûr. Après, il y en a un autre qu'on attendait beaucoup, c'est Elias Achouri, le joueur de Copenhague. Mais sur ce type d'éléments, ce sont des joueurs qui découvrent la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dur de leur faire porter le fardeau de la possibilité du rêve, d'entretenir un rêve, d'essayer de... Achouri, là, on parle d'un joueur de 23-24 ans qui découvre la Coupe d'Afrique des Nations. Il a déçu sur le premier match, certes. Maintenant, c'est peut-être un joueur qui serait plus efficace en sortie de banc sur ce type de match. Mais en tout cas, ce qui sera important, surtout, ce sera de réaliser une bonne entame de match et de pas prendre de but sur le premier quart d'heure, sur les 20 premières minutes, exactement comme ce qui s'était passé il y a deux ans face au Nigeria. Et puis ensuite, parce qu'ils en sont capables, ils sont aussi capables de contrer. Le Mali aura certainement la possession. C'est essayer sur un exploit individuel, sur un coup de pied arrêté, de venir faire la différence. Mais oui, je suis pas forcément rassuré.
Ouais, et du coup, alors pas rassuré parce qu'en face aussi c'est le Mali. En quelques mots, Michael, le Mali, on en parle quasiment jamais finalement, que ça soit parmi les favoris, même les outsiders, on les oublie un petit peu. Est-ce que toi, tu les placerais où dans la hiérarchie après les avoir? Alors, il y a eu qu'une journée pour les Maliens, mais tu les placerais où là?
Ouais, je les placerais sur. Je pense qu'ils peuvent finir premier de leur groupe. C'est une équipe assez costaud. Je pense pas qu'ils soient à la hauteur d'un Sénégal, par exemple. Mais voilà, ça peut être une belle équipe qui peut créer une surprise et qui peut être aussi régulière plutôt. Elle va jouer contre la Tunisie, là, si elle s'impose, ça enverra un beau message.
Ouais, ben on va voir ces Maliens ce qu'ils peuvent donner. Il reste 2 minutes dans cet After Cannes, le temps de vous donner 2 petites infos. D'abord, des nouvelles de Mohamed Salah, de Mo Salah, l'Égyptien qui est sorti hier, un petit peu blessé dans le match contre le Ghana. Finalement, c'est une élongation, 2 matchs d'absence. Donc c'est un moindre mal. Ils pourraient revenir pour les quarts de finale si les Pharaons continuent jusque là. Pour l'instant, ils sont deuxième de leur groupe avec 2 points, donc ils peuvent encore se faire sortir. Et puis la Tanzanie qui vire son coach Adel Amrouche, l'Algérien viré par sa fédé. Alors juste avant, dans ce vendredi, il avait pris 8 matchs de suspension et 10 000 dollars d'amende pour avoir critiqué en fait la fédération marocaine en disant que c'était cette fédé marocaine qui tirait les ficelles, qui décidait à quelle heure elle jouait, quels arbitres elle aurait eu. Bon, alors est-ce que c'est en 2 mots, Hamza, est-ce que c'est une preuve que la fédé marocaine tire les ficelles? Je sais pas, mais en tout cas
plus,
il est, faut, il a, plus que il est viré
mots, hein. Faut plus que 2 mots pour parler de ce sujet, mais effectivement c'est assez surprenant de voir 8 matchs de suspension. Enfin c'est énorme, 8 matchs de suspension.
J'avoue, il a,
je parle même pas du limogeage. Hein, je parle d'abord de la sanction de la CAF. 8 matchs de suspension, ça m'a l'air quand même très très fort. Après effectivement, quant à la problématique ou pas qu'a soulevé Adel Amrouche, bah chacun fera son opinion.
Bon, et puis la double peine, c'est que le remplaçant sur le banc, ça va être Ahmed Morocco.
Ça fait
voilà,
ça.
Le Maroc
ça fait très fort.
qui vient faire un double chassé à l'ami Adel Amrouche. Bon, malheureusement, qui ne terminera pas cette CAN. C'est la fin de cette After CAN après 7 jours de cette Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve demain, évidemment, on débriefera l'Algérie contre le Burkina Faso. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Hamza. Bon retour. À bientôt. Merci, Poison. Merci et Mickaël Siani, merci beaucoup d'être passé. On va se quitter sur une musique à toi, d'ailleurs, Poison. Vous repartez dimanche en France.
C'est ça, en France.
Et ravi de vous avoir connu ici à Abidjan, Jaja Victor.
Dans le froid.
Merci beaucoup. On espère, ouais, exactement. Vous allez revenir dans le froid parisien, Jaja Victor. Dans les bouchons abidjanais, vous allez continuer d'écouter l'After.
Ah bah bien sûr, toujours. L'After est dans le sang.
Un club de cœur en France.
Ah, le FC Nantes, moi. Depuis 94-95, la meilleure année. Hein.
Et moi, le FCR qui joue d'ailleurs dimanche en Coupe de France contre Toulouse.
FC Rouen ?
Ouais.
Eh bah écoute, je suis rouennais et Bruno, notre producteur, est toulousain. Donc
alors,
normalement,
j'espère
on parle
que dimanche, on sera
lundi.
Content. Voilà,
c'est ça. Bravo. Bon, merci à tous de nous avoir suivis sur RMC pour cet After CAN et on se quitte sur ce son de Poison Mobutu. Salut.
RMC, l'After CAN.
Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.